Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les grands moments de Rotten sans flamme de cette première partie de saison jusqu'à 20h sur RMC. Jérôme vous embrasse, on vous souhaite à tous un excellent Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. On vous retrouve le 5 janvier avec Jérôme, avec toute la Dream Team, et on profite de ce moment pour vous faire revivre les meilleurs moments avec le jeu de la vérité de Manu Petit. Dans quelques secondes, Manu était là, il a dit toute la vérité, rien que la vérité. Il était en compagnie de Jean-Pierre Papin, avec Jérôme Rotten, avec vous au 32-16. Et on n'oublie pas forcément le quiz à 19h45, les questions de Louis Gerbier qui rendent complètement fous les membres de la Dream Team. On y va, le jeu de la vérité spécial Manu Petit.
RMC, Rotten sans flamme, le jeu de la vérité.
Après la Coupe du Monde 98, c'est un tsunami en fait qui arrive. C'est un raz-de-marée qui emporte tout sur son passage. Et si t'es pas structuré dans ta tête et si tu n'as pas un bon environnement dans lequel tu évolues, tu peux vite péter les plombs, quoi.
Avec aujourd'hui, Emmanuel Petit.
Vous avez juré de dire toute la vérité, rien que la vérité et que la vérité.
Toute cette semaine.
C'est un droit.
Et toi, attends.
Rotten sans flamme met en place le jeu de la vérité. Le principe est simple. Une personnalité du monde du foot se livre sans filtre, sans tabou sur tous les sujets. Vous venez poser vos questions au 32-16. On vous attend sur le 06 12 424 424. Et donc ce soir, c'est Manu Petit. Ça va, Manu?
Ouais, très bien, ouais.
La machine est bien installée?
Ouais, elle est bien installée, ouais.
Bon, très bien. Tu jures de dire la vérité?
Oui.
Toute la vérité?
Toujours.
Rien que la vérité?
Rien que la vérité.
Bah, tu jures, vas-y.
C'est quoi, ça à droite, c'est ça?
Oui.
Ok. Je le jure.
Tu as le droit à un joker, Manu, si une question te dérange.
Ok.
Tu penses non, pas t'en pas. Servir?
Bah, je pense pas, non. Pourquoi je m'en servirais?
Bah, on verra.
Ouais, tu sais.
On verra. Okay. Si, jamais la machine détecte que tu mens, tu entendras ce signal.
Et ok, d'accord.
Ok. Donc il faudra aller plus loin dans tes propos, allez, bah, ou dire la vérité.
Aller au fond de mon cerveau, ça va être compliqué. Hein, parce que même ouais. Moi, des fois, j'ai du mal à suivre un peu les méandres.
Bon, la machine, un petit peu compliqué.
La machine n'ira pas jusqu'à là. Elle va pas s'aventurer.
S'il vous plaît, aidez-moi.
C'est un grand moment, Jérôme. On est ravi donc d'avoir une légende du football français pour ce jeu de la vérité.
Non mais on plaisante.
Bon, allez, ça y est, tu es
en
Michel.
C'est vrai,
Manu, on plaisante.
Non mais je suis impatient en fait.
Alors donc on commence. Écoute, on plaisante souvent sur ton rôle, en effet, dans le football français, mais
mon rôle.
Bah oui, dans le football français, t'as été un joueur majeur du football français, t'as marqué les esprits. On te parle souvent de France 98. Est-ce que t'en as marre de ça?
Non, bah non, au contraire, c'est ce qui me définit dans la rue tous les jours. Les gens m'arrêtent, me klaxonnent, me remercient, que ce soit en France ou à l'étranger. Après, c'est à l'étranger, c'est aussi pour la Première Ligue, mais c'est moi, je l'ai dit encore, j'étais à Malte la semaine dernière, tu vois, lors d'un événement, et les gens me posaient plein de questions sur ma carrière de footballeur, et avec des yeux, ils s'appétillaient, et je me suis dit, attends, Manu, t'as 55 ans, c'était il y a une éternité, t'as été joueur de foot, et ça perdure, en fait. La magie perdure, l'émotion perdure, et on continue à exister, et à vivre grâce à eux, en fait, grâce à tous ces gens qui passent leur temps à nous envoyer leur message d'amour en permanence, et moi, je leur ai dit, et je le pense sincèrement. Et on n'est pas des scientifiques, on n'a pas créé de vaccin, on n'a pas révolutionné le monde, on n'est pas des politiques, on n'a pas changé l'aspect social ou économique d'une vie, d'un individu. On est là simplement pour susciter de l'appartenance, donner de l'émotion.
L'économie du football, vous en avez participé.
Oui, je sais, mais moi, j'ai toujours, même quand j'étais joueur, j'ai toujours pris du recul par rapport à tout ce qui se passait dans l'univers du football, parce que je sais que là, il y a un gros impact du foot, notamment dans les médias, dans la vie de tous les jours, mais il est quand même extrêmement limité. On a aucun pouvoir.
Bon, après, vous avez une génération particulière, vous êtes précurseur, vous avez remporté la Coupe du Monde en France en 98.
Ça, c'est beau, oui.
Le sujet qui revient souvent aussi, qu'on voulait aborder avec toi, c'est cette fameuse famille 98.
Oui.
Vous étiez lié, vous êtes lié à vie par ce moment, cette grande compétition remportée en France. Malgré tout, on voit des dissensions dans ce groupe. Souvent, tu le déplores, notamment publiquement. Où en est l'état de la famille 98? Est-ce que vous vous parlez toujours? Est-ce que certains jouent plus le jeu que d'autres?
On s'est réunis mi-juillet. On essaye de... Même moi, tu vois, je suis parti pendant 15 ans de l'association.
Pourquoi alors?
Parce que il y a des choses qui ne me plaisaient pas au sein de l'association. Je m'en suis... J'en ai parlé à certains gars et je les ai pas pris au dépourvu. Et puis j'ai préféré justement partir sans le dire publiquement. parce que je considérais...
Avec qui? Avec Zidane? Avec d'autres?
Ben, Zizou, on a eu un problème à la sortie de mon premier livre, lorsque, sans que ça soit vraiment quelque chose d'agressif de ma part, ou il n'y avait pas d'arrière-pensée, je disais que Zizou a son précaré avec certains joueurs au sein de l'équipe de France. Comme moi également, j'ai des affinités beaucoup plus fortes avec certains joueurs de l'équipe de France. Et à chaque fois qu'on se rencontre, eh ben ces associations se reforment naturellement. Donc on va pas forcer les choses, on va pas se mentir, on se respecte, mais on n'est pas dans l'intimité. Je veux dire, moi je sais pas ce que fait Zizou au quotidien, je connais pas sa vie, je connais pas sa famille, et c'est réciproque. Mais on est plein dans ce cas-là. Mais ça veut pas dire pour autant. Aujourd'hui, tu me poses la question, qu'est-ce qui se passe au sein de France 98? Ben moi je le regrette parce que le chemin que j'ai pris il y a 15 ans et j'ai fait le chemin inverse en 2018 pour les 20 ans où il y a plein de joueurs qui m'ont appelé en disant Manu, ça suffit maintenant, il faut que tu reviennes. Et j'ai mis mon ego de côté parce que ce qu'on a fait nous dépasse, parce que ce qu'on a fait appartient à tous les Français et ce qu'on a fait restera à jamais marqué dans l'imaginaire des Français, dans tout ce que l'on a fait en tant que Black Blanc Beurre, dans cette unification grâce au football, d'avoir déplacé des millions de gens à travers les rues françaises. On n'avait jamais vu ça depuis la libération de la France.
Il y a des personnalités différentes. Tu m'as parlé de Zidane, on peut parler de Thierry Henry, que Jérôme connaît bien, vous avez été formé ensemble. Thierry Henry, c'est particulier, il y a un écart de génération, lui était tout jeune quand vous étiez champion.
Quelle relation t'as avec
J'ai pas de relation avec Titi.
Malgré toutes ces années partagées à Arsenal et en équipe de France.
Et on se connaît depuis
Monaco.
Quasiment l'Académie de Monaco, même si on n'est pas la même génération. Je n'en sais rien. Comme je t'ai dit, je ne vais pas forcer des amitiés en sachant que je n'ai pas d'affinité avec certains. Même quand j'étais en équipe de France, j'allais plus naturellement vers certains gars avec qui, encore aujourd'hui, j'ai de grosses affinités que d'autres gars. Je veux dire, c'est comme toi ici à RMC. Tu as des mecs, peut-être que ça fait 15 ans que tu les connais, mais peut-être que tu sais même pas leur vie parce que j'ai partagé des moments
aussi forts avec quelqu'un que Thierry Henry par exemple, avec qui tu as joué longtemps à Arsenal.
Non, ce que je regrette aujourd'hui, pour répondre à ta question, et c'est un sujet qu'on a évoqué en toute franchise, je vous parle les gars, pendant l'assemblée générale à Aix chez Zizou. À l'hôtel, on était tous réunis avec nos compagnes, il y avait tout le staff, il y avait énormément de gens dans la salle. Moi j'aime bien parce que ça humanise justement ce que l'on a fait ensemble et ça on perdure justement ce qu'on a fait. Mais ça a été évoqué de dire pourquoi depuis des années certains gars ne viennent plus.
Dont Thierry Henry.
Il est pas le seul, il y en a plein qu'on ne voit plus.
Qui ne vient plus.
Veux que je te les cite?
Oui.
Là c'est la nouvelle, les plus jeunes.
Comme ça, au moins on saura de qui on parle. Donc
les plus jeunes.
Il y en a certains qui ont de bonnes excuses puisqu'ils sont quand même, ils ont des responsabilités aujourd'hui. Je pense notamment à Pat Vieira dans les clubs. À chaque fois qu'on se rencontre, c'est souvent début décembre ou au mois de juin, juillet, quand il y a les préparations des clubs et tout, c'est compliqué. Mais malgré tout, Lolo Blanc, qui est entraîneur aussi, et à chaque fois, il est présent avec nous. Il prend toujours un jour et demi pour venir avec nous.
Toi qui as une âme de leader dans ce groupe aussi.
Je vais te dire un truc. Au sein de 98, je n'ai aucun pouvoir.
Non, mais toi qui as une personnalité forte.
Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que j'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. Je suis toujours dans mon coin.
Mais est-ce que tu veux pas lancer un appel à, entre guillemets, la réunification? Est-ce que tu as un message à passer à Henri, à Vieira, à d'autres?
Faites ce que j'ai fait moi.
Pour vous réunir, parce que cette famille,
C'est ce que je viens de te dire. Ce que l'on a fait nous dépasse, nous appartient pas, appartient à tout le monde et va bien au-delà.
C'est important de rester unis.
Des frontières du football. Parce que on est devenu à jamais, on est rentré à jamais dans l'histoire de notre pays.
Oui, mais Manu, tu demandes que eux, l'ego, ils le laissent de côté. Mais
qu'ils nous disent, même s'ils veulent pas revenir, qui nous disent au moins pourquoi ils veulent pas revenir.
En fait, vu de l'extérieur, je sais pas, toi tu dois avoir la réponse, mais vu de l'extérieur, quand tu parles de Vieira,
moi ça me déçoit parce que je les apprécie tous.
Un jeune joueur très aigué, qui est un jeune joueur, Thierry Henry, qui est un jeune joueur à l'époque.
Steph Guivarch aussi, ça fait une éternité qu'on le voit pas.
Steph Guivarch, il est passé pour l'attaquant qui marquait pas un but et on a l'impression qu'il est pas champion du monde.
Ça me désole parce que moi j'apprécie beaucoup, mais même ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'apprécie énormément Steph en équipe de France. On a souvent parlé justement après un déjeuner à Clairefontaine avec un petit café, une clope à la main. On parlait de tout et de rien.
Oui, mais toi, ça a l'air de toucher, Manu.
Moi, ça me touche parce que humainement,
est-ce que dans le groupe 98, dans le groupe 98, la famille 98 entre guillemets, ça pose problème aussi. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi ils viennent pas?
Oui, parce qu'on est tous, comme je dis, parce que je pense que je suis pas le seul à penser comme ça. De dire qu'on n'est pas simplement là que pour des raisons footballistiques et sportives. On n'est pas là, on se force pas à venir. Si on fait ça depuis X années, ça fait 27 ans, on a fait les 27 ans de France qui a introduit chez Zizou au Z5, c'est pour une bonne raison. C'est parce que on est content de se retrouver, parce qu'on on perdure l'esprit 98. Bien sûr. Et notre génération a un contact avec les gens, les Français de base, mais incroyable. Alors, t'as même pas idée, quoi, l'effervescence qu'il y a eu ces trois jours.
Manu, ton histoire avec l'équipe de France a été très longue. Tu as démarré très tôt, tu as été lancé par Michel Platini. Oui. Tu as une histoire commune avec JPP, qui était déjà une légende du foot français et du foot mondial quand tu arrives en équipe de France. Mm-hmm. Et vous avez ce souvenir commun et douloureux qui est France-Bulgarie au Parc des Princes, 93. Tu as vécu beaucoup de choses, tu es champion d'Europe, tu es champion du monde,
Il y avait moi aussi dans les tribunes.
Ah ouais, t'étais en tribune, donc t'as compté, bravo.
Ouais, okay. tous les deux, j'allais vous expliquer.
Je connais pas ta question, mais pour moi, ça reste.
Alors, j'ai deux questions énorme, en une. La première, c'est est-ce que c'est encore une cicatrice aujourd'hui? Et la deuxième, c'est est-ce qu'à ton avis, parce qu'à l'époque, la rivalité Paris-Marseille était exacerbée.
C'est de la faute de Jean-Pierre.
Est-ce que ça vous a coûté votre place au mondial?
Trop facile.
Je pense pas que la rivalité Marseille-Paris à l'époque, a coûté la place de l'équipe de France au mondial 94 aux États-Unis. Il y avait 90 également, mais moi je venais à peine, je suis arrivé juste après 90 quand l'équipe de France rate la Coupe du Monde en Italie. Mais
l'ambiance dans le groupe, elle était pas top, Manu, à cette époque-là.
Il nous restait deux matchs, il nous fallait un point, quoi. Les deux matchs, on les jouait à domicile
et Bulgarie.
C'est-à-dire, c'est pas parce que l'ambiance était pas top qu'on n'aurait pas pu se qualifier. Non, je pense que.
Mais elle était pas top, l'ambiance.
Tu réponds pas vraiment, la Manu.
Non, sincèrement. Moi, j'ai pas noté des choses bizarres, et je te le dis très sincèrement. Je savais qu'il y avait, des joueurs parisiens et des joueurs marseillais. Moi, j'étais le seul jeune joueur quasiment de l'effectif. J'arrivais de Monaco, un terrain neutre. Et moi, je regardais ça. C'était mes débuts, tu vois. Donc, en plus, il y avait une telle emprise de l'Olympique de Marseille avec Bernard Tapie à cette époque-là sur le championnat de France. Il y avait une rivalité. C'était la naissance de Canal+. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient amplifiées. Il y avait aussi le côté politique aussi qui rentrait en jeu. Donc,
est-ce que quand t'arrives, tu ressens, moi, je vais te dire.
Attends, d'abord, je vais répondre.
Vas-y,
JPP, bien sûr. Par rapport à, puisqu'on a vécu ça en commun, et sincèrement, il n'y avait pas de problème entre Paris et Marseille.
Ouais, j'ai rien vu, moi.
Il n'y a jamais eu de problème entre Parisiens et Marseillais dans le vestiaire. Il y avait beaucoup de choses dans les journaux, mais à aucun cas, nous, directement, les joueurs, on avait des soucis.
On a simplement merdé, en fait, avec un mec
comme David Ginola, par exemple.
Il a servi de bouc émissaire.
Non, mais c'est ça.
Bien évidemment, il n'y a jamais eu de problème avec David. David, c'était pour moi, c'était un des joueurs les plus forts que j'ai jamais vu.
Ouais, un des plus talentueux.
J'ai regretté amèrement qu'il ne soit jamais passé par l'OM. Parce que je pense que...
Ah, il aurait pu enflammer les Lodromes. Ouais.
Non mais voilà. Respectez le PSG, mais vous. Mais
encore une fois, il n'y a jamais eu le moindre souci.
Jean-Pierre, il est passé par le plus grand club français, le Paris Saint-Germain. Pourquoi tu veux qu'il aille à l'Olympique de Marseille?
Tu laisses dire ça, toi, Jean-Pierre?
Mais oh.
Pardon?
Tu laisses dire ça, toi, Jean-Pierre?
Je laisse dire ça, c'est la réalité. Regarde le palmarès. Mais Jean-Pierre et Manu, moi.
Aujourd'hui.
Non, mais Manu et Jean-Pierre, je vous tiens là. Et tant mieux. Moi, j'ai une question. Alors, c'est le moment de vérité, pas de Jean-Pierre, de Manu.
Ouais.
Donc Jean-Pierre, t'es pas obligé de répondre. Mais vous me dites, ouais, il n'y a pas eu de problème avec David Ginola, joueur incroyable. Il s'est fait massacrer.
Ah, il s'est fait défoncer.
Voilà. Et j'ai pas eu l'impression. Moi, j'étais gamin, encore une fois. Et je vais vous dire, je suis bien placé pour le savoir. Parce que David, c'était mon idole. Et moi, j'ai joué au football. C'était David Ginola. J'avais David Ginola en poster tout le temps. Donc, je suivais tout ce qui se disait sur David Ginola. D'accord? Et j'ai pas eu l'impression que après les déclats scandaleuses de Gérard Rouillet, il a été soutenu, quoi. Est-ce que tu te rappelles,
Jérôme, ce qui s'est passé ce jour-là?
Ça c'est
un épiphénomène, l'exocète. Mais qu'est-ce qui se passe au départ, le matin? Le matin, quand on arrive au déjeuner, il sort l'équipe qui dit où David est pas content parce qu'il il sait qu'il va pas jouer, etc.
Oui, oui, d'accord.
Et c'est là que le problème commence.
D'accord.
Et c'est là que le problème a commencé avec Gérard Rouillet.
Et est-ce que tu penses, toi, Manu, que certains joueurs très forts de l'époque, comme Canto, comme JPP, comme David Ginola,
comme Canto, ouais,
ont été sacrifiés oui. en équipe de France? Bah, ils ont servi de bouc émissaire comme ça pour expliquer ce retentissant échec.
Je pense que David aurait pu faire aussi la Coupe du Monde avec nous en 98.
Et que malgré, et c'est cette histoire qui lui a porté préjudice, quoi.
Pas que, je pense aussi que son côté un petit peu exubérant où il prenait un peu trop la lumière, je pense que ça ne coïncidait pas avec, avec ce que vous voulez mettre en place Aimé, quoi.
Il y a un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, c'est, nous on a tous en tête l'image du Manu France 98, magnifique, avec le but en finale, la passe D comme ça sur corner, pour la tête de Zidane, donc Manu au firmament, et puis cet Euro 2000.
Non, attends, moi j'ai sur France 98, et sur le 98. Non, parce que je vais t'attraper. Pourquoi? Parce que je sais que ça t'énerve quand je dis que t'es le meilleur joueur de France. Arrête. Déjà, c'est moi qui pose la question.
Mais comment tu peux
pourquoi,
dire ça?
Pourquoi ça te dérange?
Ça me dérange
à chaque fois qu'on te présente comme ça, alors que tout le monde est unanime.
Mais parce que.
Et pas moi, même ton entraîneur de l'époque, Arsène Wenger. Ouais, tu sais que
on a tous le droit de dire des conneries aussi. Hein.
D'accord. Donc. Pour toi, t'es pas le meilleur joueur.
Mais je m'en fous si j'étais le meilleur.
Non, mais, réponds. Voilà, sois sincère.
Mais c'est à l'image des gars. Regarde, Coman, justement, si tu nous écoutes, écoute bien ce que je veux dire. Parce que même les mecs qui n'ont pas joué ont été importants. C'est pour ça que j'en ai souvent parlé avec les gars de 98, ceux qui n'ont pas eu une seule minute, comme Lio, qui est avec nous. Ouais. Lio ici, le troisième gardien.
Ah, tu vois, ça veut dire que tu mens.
Mais non, c'est la vérité.
Non, mais t'es le meilleur joueur de 98, ou pas?
C'est pas à moi de le dire.
Mais t'as pas envie de le dire, mais nous on peut te le dire.
Non, mais pourquoi ça t'énerve en fait?
Mais on s'en fout.
Bah non, les gens s'en foutent pas.
Bah si, les gens s'en foutent.
Bah non, les gens se souviennent de ça. Ils préfèrent se souvenir de Manu Petit, meilleur joueur de 98, plutôt que Manu Petit éliminé de la Coupe du Monde en 94.
Ça va changer quoi?
Je comprends pas pourquoi ça t'énerve.
Moi, parce que je n'ai pas l'aura d'une star comme Zizou. Zizou, il a le charisme, il a la carrière, il a les qualités footballistiques, et que ça soit lui qui soit sorti comme étant la grande star de 98, moi ça me va.
Manu, j'ai une question.
Ça me va sincèrement, Jérôme, ça me va. Après, toi, vous, parce que vous n'êtes pas les seuls, hein, ça fait 25 ans, plus de 25 ans, que je passe mon temps à rencontrer des gens qui me disent exactement ce que vous me dites. Bah, comme vous dites, moi ça me va.
Non, mais on pourrait dire Youri Djorkaeff aussi. Hein.
Non, mais il y en a plein qui ont fait une grande carrière, une grande Coupe du Monde en 98.
Manu, j'ai une question.
Youri Djorkaeff,
Marcel Desailly a été énorme. Je veux dire, il y en a plein. Fabien a été énorme. Donc pourquoi en sortir un?
Manu, j'ai une question délicate pour toi. Une question concrète.
Oui.
Et je sais que tu es 100% honnête, donc je pense que tu vas y répondre. Malgré tout, je te dis que le buzzer est prêt à retentir, si jamais tu dis pas toute la vérité. Question très simple. Un peu délicate, mais assez simple. Est-ce que tu penses qu'il y a eu aussi un peu de politique dans cette équipe de France et que certains cadres, qu'on peut citer d'ailleurs notamment Didier Deschamps par exemple, qui a fait toutes ces années en équipe de France, avec qui tu as été en concurrence en 2000 notamment, est-ce que tu penses que certains cadres comme ça ont eu la peau de certains joueurs en bleu, avec leur proximité avec le staff, est-ce qu'ils ont eu leur poids comme ça dans les décisions qui ont été prises sur des Ginola, des Papins?
J'ai entendu des rumeurs. Je vais te répondre. J'ai entendu des rumeurs. On a souvent fantasmé le rôle de Didier à bien des égards.
Est-ce qu'il était réel, ce rôle?
Même encore aujourd'hui, en tant que sélectionneur, on lui prête des choses incroyables avec une dimension, un pouvoir incroyable, comme si il faisait l'appui de beau temps à la Fédération française de football, comme s'il était prédestiné à être le futur ministre des Sports.
Oui, c'est vrai. Ou président de la Fédé.
Mais il a ce côté extrêmement politique.
Il n'a jamais eu son mot à dire dans les décisions comme ça, tu penses?
Mais moi,
j'ai
jamais été invité dans les
régions
extrêmement privées. Oui, tu vois ce que je veux dire?
Manu,
tu
as une intime conviction.
Parce que les gens savaient très bien qu'avec moi, ça ne passerait pas, ces choses-là. Donc c'est pour ça que je n'étais jamais invité.
Ah, donc ça veut dire qu'eux étaient invités.
Mais s'il y avait des choses qui se faisaient dans l'ombre, c'est clair.
Est-ce que tu y crois, toi?
Moi, je pense, oui, je pense que ça peut exister, ouais.
Est-ce que Cantona, Ginola, Papin,
je sais que Canto et avec Didier n'ont jamais été des grands amis. Gino, c'est pareil, je te l'ai dit juste avant. Dit que Gino aurait dû faire la Coupe du Monde avec nous. En termes de qualité, aurait dû être avec nous en 98.
Il avait deux Zidane dans le
genre. Il était incroyable en Angleterre.
En quelque sorte, Deschamps et d'autres, peut-être, ont eu sa peau. en quelque sorte.
Parce que des fois, tu prends pas les meilleurs joueurs à chaque poste. Tu prends le puzzle qui va le mieux fonctionner en fait, parce que tu sais que tu vas vivre pendant des semaines et des semaines en reclus, en vase clos, où tu sais que la personnalité des uns et des autres doivent être une force et pas un handicap.
Ouais, ça peut poser problème.
Voilà. Ouais. Le bon vivre ensemble.
Et juste avant qu'on marque une pause sur l'Euro 2000, parce que là aussi ton rôle a évolué, c'est ce que je disais. Mmh. On l'a oublié, mais par exemple, tu joues la demi-finale. Enfin, il y a des matchs que tu as joué sur cette
Euro
2000.
J'ai joué un match sur deux à cause de la maladie là, du palud. Hein.
Voilà, donc tu avais cette maladie, le paludisme. Mmh. Comment tu l'as vécu cet Euro 2000?
Très mal.
Le fait de pas être titulaire en finale, remporter cet Euro, mais de pas être à 100% de tes moyens.
La veille de la finale, je dans la tête du sélectionneur, je devais jouer cette finale. Sauf que quand je monte les escaliers à Feyenoord, si vous vous rappelez un petit peu le stade de Feyenoord, quand tu sors des vestiaires, il faut monter les marches pour accéder au terrain. Et moi, les marches m'ont semblé une éternité. J'avais l'impression de monter une pyramide, en fait. Hein. Et je suis arrivé tout en haut et j'avais déjà les jambes tétanisées. Mais je savais au fond de moi que c'était impossible que je puisse faire ne serait-ce que même que 5 minutes sur le terrain. Mmh. L'intensité d'une finale à ce niveau-là, c'est incroyable. Tu dois être prêt à minimum à 100%, ouais. Quoi, tu vois.
Donc t'as un regret, mais c'est une fatalité. C'est là que t'en veux à personne.
Mais c'est même pas que j'avais un regret. C'est que j'allais bien au-delà de ça. C'est-à-dire que je savais, j'avais déjà acté que c'est ce championnat d'Europe, parce qu'avec les crises que je faisais avant. Le début du championnat d'Europe, c'était des crises à répétition où je faisais quasiment une crise toutes les semaines, tous les 10 jours. C'était un truc de malade, quoi. Sauf que je ne savais pas, personne savait ce que j'avais. On m'a fait des tests sanguins. J'étais entouré de médecins. Lorsqu'on fait la célébration du trophée à Concorde, au Crillon, à l'hôtel de Crillon, et moi, tu remarqueras, si tu regardes les photos de tous les joueurs qu'on célèbre, je ne suis pas sur la photo. Je suis où? Je suis dans une pièce à côté, en train de faire des analyses, des machins, parce qu'on essaye de savoir qu'est-ce qui m'arrive en fait. Ouais. Moi, à ce moment-là, pendant tout le championnat d'Europe 2000, je ne me pose même pas la question de savoir si je peux jouer. Je me pose la question de savoir si je vais pouvoir continuer à vivre. Mmh. Parce que je ne sais pas ce que j'ai, mais ce que j'ai est en train de me défoncer en fait.
Manu, merci pour ton honnêteté. On continue dans un instant.
Bon, c'est pas fini.
Le jeu de la vérité avec Manu Petit, on veut t'entendre sur plein de sujets. On veut t'entendre sur ta relation avec Arsène Wenger, ton papa en quelque sorte, mais qui a pris une direction tout autre, qui va à l'encontre de tes principes dans le football. Donc on veut t'entendre là-dessus. Mmh. On veut également t'entendre sur un moment tragique que tu as vécu malheureusement. Mmh. C'est la perte de ton frère quand tu avais 17 ans. Mmh. Plein de sujets à aborder avec Manu Petit. 32-16 06 12 424 424 pour le jeu de la vérité avec Jérôme Roten, Jean-Pierre Papin et Manu Petit. À tout de suite.
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme.
Benoît Boutron. Les meilleurs moments de Roten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Vous retrouverez ensuite l'after. Dans un quart d'heure, les quiz de Louis Gerbier avec du Pascal Olmeta, Christophe Dugarry, Tony Vérel, Manu Petit, Younes Belhanda, Jean-Michel Larquet. Que des bons moments à réécouter. Mais tout de suite, on se fait plaisir. On poursuit le jeu de la vérité avec Manu Petit.
On continue avec une question de Pascal qui nous rejoint en 32-16.
Salut Pascal.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue Pascal. Bienvenue. Bon, écoute, salut. On te laisse avec le meilleur joueur de la Coupe du Monde 98. Manu Petit, vas-y, il est pour toi.
Merci à vous. Je souhaiterais demander à Emmanuel s'il pense toujours aujourd'hui que la finale de la Coupe du Monde 98 contre le Brésil a été éventuellement achetée. Parce que bon, moi j'avoue que ça m'a choqué, comme ça a choqué beaucoup de fans de football, je suppose.
Choquant,
et des conneries, on en dit tous, moi le premier. Et donc ça peut très bien être une connerie qu'il a pu dire et qu'il a pu regretter ensuite. J'aimerais connaître son état d'esprit par rapport à cette phrase aujourd'hui.
Tu t'étais posé la question, hein. Tu t'étais dit est-ce qu'on a vraiment gagné?
Les saucisses, on en dit tout. On en dit tous. Mais en fait, il faut recontextualiser ce que j'ai dit. Je crois que c'était lors d'une interview, un reportage avec Arte, il me semble.
Ah oui.
À cette époque-là. Mais moi, j'adore Arte. C'était à l'époque où il y avait eu le scandale de la FIFA, il y avait eu tous les hauts dignitaires qui étaient arrêtés pour corruption, machin, tout ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Hein,
regardez, c'est pour Arte.
Vous vous rappelez? Non.
Oui, il y a eu un doc ensuite de fait là-dessus, bien sûr.
Oui. Et donc, on m'avait posé pas mal de questions et une question est sortie un peu de son contexte où j'ai répondu alors extrêmement maladroitement et ça a apporté beaucoup de confusion. Bien évidemment que je ne pense pas que la finale ait été achetée, mais ça, j'ai ouvert une porte en fait qui même encore aujourd'hui a du mal à se refermer dans la mesure où ça laisse la suspicion dans l'air et ça laisse la possibilité à n'importe qui d'interpréter ce que j'ai dit. Donc,
et pourquoi t'as dit ça?
Parce que à l'époque, on m'avait posé, Arte voulait faire, parce qu'il connaissait mon franc-parler et de dénoncer toutes les dérives et certaines choses qui se passaient dans le football, une corruption ou des choses vraiment pas belles à voir. Et effectivement, quand tu as eu, quand la FIFA a explosé avec tout, avec la preuve que beaucoup de hauts dignitaires de pas mal de fédérations étaient corrompus, notamment sur les votes, l'attribution des coupes du monde, des choses comme ça. Donc tu derrière tu peux être en mesure de on m'a posé la question, je me dis même moi je sais pas si j'ai, nous on sait en tant que joueur qu'on a tout fait dans les règles du l'art, sur le terrain pour gagner une coupe du monde, mais tu sais jamais ce qui peut se passer autour.
On remercie Pascal qui est venu au 32-16.
Bien évidemment que je pense pas que cette finale ait été corrompue, cette coupe du monde.
Autre question, parce que ça a beaucoup fait réagir après le témoignage de Pascal Olmeta hier sur les années OM, Tapis et toutes les affaires OMVA notamment. On a Alexandre qui nous demande sur le 06 12 424 424. C'est vrai que tu as été un des rares footballeurs à soutenir Jacques Glasman, qui était directement impliqué.
Je lui ai même parlé il y a deux ans au téléphone.
Voilà, qui était impliqué dans cette histoire OMVA, qui a été la victime collatérale de toute cette histoire.
C'est le masque de fer.
Est-ce que toi, tu l'as payé, tu penses, un moment dans ta carrière ?
Quoi, je l'ai payé.
Ce soutien comme ça.
Tu m'as fait peur.
Non.
Je l'ai soudoyé.
Non, pas ça.
Combien t'as reçu, toi, de Bernard Tapie ? Non. Non. Écoute, il est plus là, donc c'est très compliqué de parler d'une personne qui est décédée. Mais y a des choses que j'oublierai jamais. Donc je suis pas amnésique. Après, j'ai toujours pensé que il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes de tout ça et qu'au final, ça a pas servi à grand monde, quoi. Ce qui s'est passé à cette époque-là, quoi. Donc Glasman. Ce qui m'a scandalisé en fait, c'est que quelqu'un qui essaye justement de dénoncer un petit peu comme les lanceurs d'alerte à l'heure actuelle qui peut se passer, sont obligés un petit peu de se recroqueviller dans une forteresse en s'empêchant de vivre une vie normale parce qu'ils ont dénoncé quelque chose qui est innommable. Donc j'ai beaucoup de respect pour cette personne, pour le courage qu'il a dû avoir pour pouvoir s'exposer ainsi. Ouais.
Question pour Jean-Pierre Papin, qui est avec nous, qui était parti avant toute cette histoire au MVA, parce que JPP était parti ensuite à l'AC Milan, tu étais dans le camp d'en face pour la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que tu as entendu le témoignage de Pascal ? Est-ce que tu partages certains sentiments que peut ressentir Pascal, cette espèce de dégoût, le fait qu'il ait pris cette image, on enlève le doudou à un enfant, on casse une réalité. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça toi aussi, Jean-Pierre, au moment de toute cette histoire?
Alors, j'ai pas écouté Pascal hier parce que je sais pas ce qu'il a dit exactement. Qu'est-ce qu'il a dit, Pascal, exactement ?
Pascal, il a dit qu'il avait été approché lorsqu'il était gardien du Matra face à l'OM sur une demi-finale de Coupe de France. Des approches, entre guillemets,
Racing,
amicales,
ça remonte,
pas directes. Et ensuite, il a dit qu'après un match à Prague en Coupe d'Europe, Tapie était rentré dans le vestiaire et avait dit « C'est bon, j'ai vu l'arbitre, c'est réglé. Bon. » Qu'au final, Marseille avait perdu ce match et qu'il avait dit « t'aurais mieux fait de te taire », entre guillemets, pour dire ça.
Marseille a perdu les deux matchs, non ? Si je me souviens bien. Voilà. On a perdu contre le Racing et contre Prague.
Ouais. Exact.
Donc, je ne sais pas pourquoi Pascal l'a dit ça. Je ne sais pas, en fait. Tout ce que Pascal peut savoir, moi, je ne sais pas les mêmes choses ou... Voilà, quoi.
Tu ne te sentais pas compliqué par cette histoire?
Non, pas vraiment.
Autre sujet sur lequel on voulait interroger Manu, c'est donc cette relation avec Arsène Wenger. Ton papa, il t'a lancé à Monaco, tu l'as eu ensuite à Arsenal. Une filiation très forte, tu lui as toujours demandé son avis ensuite pour tes choix de carrière. Et puis, depuis quelques temps, c'est vrai qu'il a pris une nouvelle direction, lui qui défendait les joueurs, les calendriers, les temps de jeu et tout. Il est devenu investi au sein de la FIFA. Ouais. Il est d'ailleurs à l'origine de la Coupe du Monde des clubs, qui a beaucoup fait parler cet été. Où en est ta relation avec lui ? Est-ce que tu comprends ce virage qu'a pris Arsène Wenger ?
Pas de relation avec Arsène. On se croise une fois tous les morts d'évêques. Non, mais c'est le cas. La dernière fois que je l'ai vu, c'était l'année dernière, en fin septembre l'année dernière, pour les 100 ans du club de l'AS Monaco.
Tu l'as pas au téléphone de temps en temps ?
Non, on s'est...
Tu le regrettes ou c'est un choix, c'est...
Non, je le regrette pas, ça a toujours été comme ça. Je suis pas quelqu'un qui envoie des messages régulièrement aux gens du monde du football,
non,
mes anciens coéquipiers, tu
les
vois,
gens qui ont compté, Manu.
Bah, parce pour que lui, moi, c'est particulier. J'ai beaucoup plus d'amis, parce que pour moi, le mot amitié est quand même oui, assez fort.
C'est fort, ouais.
J'ai énormément de copains dans le monde du foot. De là à parler d'amitié, de réel ami, j'en ai un.
C'est qui?
J'ai de très très bons potes.
C'est qui ton ami dans le monde du foot?
Bah, à l'heure actuelle,
c'est, à part moi, c'est qui?
C'est William Gallas.
William Gallas, ouais.
Et c'est comme un frère.
Et Arsène, quoi, comment t'expliques cette nouvelle vision qu'il a depuis qu'il a...
Je suis un peu tombé de ma chaise, je t'avouerai. Après, je me suis dit, si c'est pour rentrer dans la FIFA, l'organisme mondial qui gère le football, et essayer justement de donner peut-être une orientation un peu plus footballistique, et beaucoup moins accès et vers l'argent,
pourquoi pas, c'est bien, mais c'est pas du tout ça.
Bah non, quand tu vois la multiplication des matchs qu'on essaye de mettre en place, avec des compétitions, en veux-tu, en voilà, et on sature un calendrier qui est déjà extrêmement saturé, et en plus, si on est quand même à des années-lumière des déclarations ou des prises de position assez fortes qu'il prenait lorsqu'il était entraîneur. Moi, je me rappelle Arsenal, où on était beaucoup à partir à chaque fois dans les trêves internationales. Et à chaque fois, ils s'en plaignaient. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils envoyaient des jets privés pour aller chercher les joueurs à l'issue des matchs lorsqu'on était à 3-4 heures de Londres pour récupérer le plus rapidement possible. Donc, la cadence, tout ça, ça a toujours été quelqu'un qui a été arc-bouté à juste titre pour défendre le bien-être et la santé des joueurs. Après, il défendait aussi les intérêts de ses propres employeurs. Donc, c'était des entités privées. Aujourd'hui, c'est une autre entité privée qui a le pouvoir, un pouvoir colossal de vivre.
C'est que
de
du business, en fait.
Parler du football avec la FIFA, la plupart du temps, ça va pas souvent dans la même phrase, en fait.
Si tu croises Infantino, tu lui dis bonjour.
Écoute, ouais.
Tu lui serres la main?
Alors, je vais te dire un truc. La FIFA, comme l'UEFA, ne m'ont jamais appelé pour quel que soit un événement, parce qu'ils font des événements en veux-tu en voilà,
oui,
travers
les remises de trophées,
les ambassadeurs en veux-tu en voilà, anciens champions du monde, il y en a énormément qui sont ambassadeurs,
ils ont la carte FIFA, ouais.
mais je pointe pas le doigt, et tant mieux pour eux s'ils profitent
du système,
ouais. Ils ont bien raison, c'est moi qui suis le con dans l'histoire. C'est moi qui suis le con, je devrais la fermer et faire comme tout le monde, penser en privé l'opposé, et quand je suis en face de ces gens-là, de dire mais vous avez raison, je pense pour vous, tu vois. Et pour mon propre intérêt.
Qu'est-ce que tu reproches, Manu, au système?
Qu'est-ce que je reproche au système aujourd'hui?
Ouais, par exemple la FIFA, qu'est-ce que tu reproches au système?
Bah de pas vraiment penser au football réellement, quoi. Je veux dire c'est le business en fait qui prédomine en permanence, et la première chose que je reproche véritablement à ces institutions, c'est qu'elles ne soient pas démocratiques. Je m'explique. C'est que tous les licenciés du foot à travers le monde devraient être en mesure de pouvoir donner leur voix lors des élections. Aujourd'hui, c'est un précaré, c'est une baronnerie, c'est à l'image de la Fédération Française de Football, c'est à l'image de toutes les grandes entités qui nous gèrent en permanence, c'est à l'image de la présidence de notre pays. Je veux dire, il faut 500 parrainages des maires pour pouvoir se présenter à une élection présidentielle. Non, mais c'est une baronnerie, on est entre nous en permanence. Tu sais qu'il y aura jamais de nouveautés, qu'il y aura jamais de choses qui viendront bouleverser justement ce système-là. La FIFA, l'UEFA, la Fédération Française de Football sont inscrits dans la même logique. On ne veut pas que les gens qui font le foot, qui jouent au football chaque week-end, puissent avoir la parole par rapport à leur passion.
Je trouve ça pas logique.
C'est pas logique.
Manu,
c'est antidémocratique.
Il y a un sujet qui marque ta vie, qu'on voulait aborder avec toi. Tu nous as donné l'accord pour en parler d'ailleurs. C'est ce moment tragique que tu as vécu très jeune.
Oui.
Parce que à 17 ans, tu apprends brutalement le décès de ton frère Olivier, qui lui aussi était un footballeur prometteur. Il avait 19 ans, malheureusement, victime d'un anévrisme cérébral avant de disputer un match avec l'équipe réserve de l'AS Monaco. Tu y as vu aussi un signe du destin, c'est-à-dire que tu as toujours joué pour lui, tu as fait une grande carrière pour lui, comme s'il te protégeait et c'était lui
en mission.
Voilà, tu étais en mission pour lui. Il t'a accompagné tout au long
il
de ta carrière.
Il m'accompagne toujours aujourd'hui.
Sur l'apogée, sur le troisième but en finale de Coupe du Monde, la première personne à laquelle tu penses, c'est lui.
Et à mon autre frère aussi, à ma famille. Quand on a gagné la Coupe du Monde, ils étaient présents. Je me rappellerai toujours des premiers instants que j'ai partagés avec mes parents, avec mon frère, à la suite de la Coupe du Monde. Donc ça a été extrêmement fort. Quand je suis en tournée à Saint-Nicolas-d'Aliermont, où j'ai été accueilli comme le Messie, ça m'a énormément touché et ça me touche toujours autant. De voir cet amour, cette importance qu'on me donne et qu'on m'a donné. Et pour revenir à mon frère Olivier qui est décédé sur un terrain de foot, c'était quasiment, en termes de timing, quasiment au même moment où je passais professionnel avec l'AS Monaco. Donc moi, j'ai vécu ça comme un signe divin, comme s'il me fallait un sacrifice divin pour pouvoir faire la carrière que j'ai faite. Je vais vous faire un aveu. Je pense que ça a été une tragédie pour un bien. C'est difficile à moi pour le dire, hein, parce que je vis toujours assez dur, avec ça, mes parents pareil, mon autre frère David, j'ai une énorme pensée pour eux pendant que je vous parle, parce que mon frère David était présent sur le terrain quand il a vu mon autre frère Olivier s'écrouler, sa future femme, fiancée était présente également en train de le regarder, donc vous pouvez imaginer les tragédies que ça a engendré derrière. Moi, j'ai appris ça à Monaco, chez un ami, avec mes parents exceptionnellement étaient avec moi à Monaco ce jour-là, et on a appris un coup de téléphone, et c'est la première fois que je voyais mon père se frapper la tête contre un mur, alors que c'est quelqu'un qui vient de la génération de deuxième guerre mondiale. On garde tout pour soi. Je viens d'une région où l'ancienne génération ne laisse jamais transmettre ou transparaître leurs émotions. C'est des taiseux, quoi. Donc tout ça a fait que ça m'a complètement chamboulé et j'ai vécu ça comme un signe divin et je me suis dit, Manu, tu passes au même moment professionnel, tu t'es en mission. Donc quand je suis rentré en tant que professionnel, j'avais une faim de loup, quoi. J'étais comme un lion, je m'entraînais deux fois plus dur, j'avais une hygiène incroyable, j'en arrivais à peser mes aliments, à gérer l'apport calorique, les lipides, les glucides, mais c'était un truc de malade, j'étais devenu obsessionnel, quoi. Ouais. Mais ça a porté ses fruits parce que sur le terrain, je volais, quoi. Donc quelque part, j'avais même pas besoin d'avoir un diététicien, un nutritionniste à côté de moi ou un préparateur mental. J'étais Rambo, mission, quoi. Tu vois, j'étais Rambo.
Merci Manu pour ta franchise dans ce jeu de la réalité. On a passé un excellent moment avec toi. Donc merci.
On le refera parce que c'est un peu court là. Il y avait encore plein de trucs à aborder.
Exactement. Mais merci pour ta franchise.
Je donnerai des questions la prochaine fois.
Et ben pourquoi pas.
Magnifique jeu de la vérité avec Manu Petit. Tous les jeux de la vérité d'ailleurs sont à retrouver en podcast sur la chaîne Roten sans flamme, sur les applis d'RMC et sur les plateformes de téléchargement. Dans un instant, les quiz de Louis Gerbier avec des grands moments. Restez avec nous. On est là jusqu'à 20h. À tout de suite.
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Roten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Encore un joyeux Noël à vous tous. On est là jusqu'à 20h et dans un instant justement, les quiz de Louis Gerbier. C'est un moment que vous adorez forcément. Les prises de bec entre les membres de la Dream Team. On reviendra demain avec de grands débats, notamment à 18h. Ce débat qu'on avait fait autour de Kylian Mbappé. Deviendra-t-il un grand numéro 9? Nous étions avec Christophe Dugarry et Jean-Pierre Papin. Rendez-vous demain à 18h. Mais tout de suite, c'est le quiz.
Tour du RMC. Tous contre Roten.
Avec Louis Gerbier. Salut Louis.
Salut l'équipe. Louis. Hyper salut. Content d'avoir assisté au premier Roten sans fou en direct.
Ouais, c'est ça, exactement. Non, à tout pub, à Ajaccio.
Je rigole, je rigole.
Ludo et Guillaume vont s'affronter ce soir.
Comment il a parlé de ton ami, Pascal?
Salut les gars.
Salut les gars.
Ludo, tu veux jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Avec le reste du monde, s'il vous plaît.
Ah, il veut pas jouer avec Jérôme.
Eh ben, tiens, celle-là, elle est bonne. Allez, bravo.
Allez, c'est parti. Et Guillaume avec Jérôme.
Ah, bravo.
Allez, Guillaume.
Magnifique, c'est parti.
Allez, Jérôme.
On va les plier.
Allez,
on y va. Il est nul, Pascal.
On y va, le thème du soir, OGC Nice à AS Rome.
Ah ouais.
Ça va concerner des joueurs qu'on
jouait
d'un côté et de l'autre. On va commencer avec une question flash. L'OGC Nice, donc, reçoit Rome ce soir, mais que veut dire OGC?
OGC.
Parce que le N, c'est Nice, je vous en donne un indice.
Ah ouais, pas mal.
Ouais.
Ouais.
Ah ouais.
Il est pour
l'air
du club.
Oui, multisport du club.
Oh, la connexion encore.
Incroyable. 1-0 pour le reste du monde.
Olympique.
Ouais, ouais. Écoutez, on part.
Il y a la fibre marocaine. On est ravis de le savoir.
Gymnaste au club.
On parle d'un club italien. On peut pas s'empêcher d'une question tirandicon.
Eh bien, bien sûr. Ti rendi conto se tu poses una question a un supporter italiano che ha dans quelques années? Qui è stato più forte?
Tu poses une question.
Tu poses une question.
On s'est pas assez arrêté sur le tu poses une question.
Tu poses une question.
Tu poses une question.
Tout le monde peut répondre et avec l'accent de coach Courbis évidemment. Quel est le surnom animalier de la Roma?
La Louve.
Bonne réponse.
Il y a l'accent.
Ah bah non, il n'y a pas l'accent là. Vite, Christophe, vas-y, avec l'accent.
Ah, y a la, tu rendis compte que la louve.
Oui, la loupe.
Ciao, ciao, ragazzo. Bien. 2-0.
Bon, bah, une petite question con. Alors.
Allez. Ah.
Quel joueur dans le groupe niçois est toujours sous pression?
On a perdu là.
Pierre, Bart.
Bart. Bien joué.
Bart.
La passe D pour Jérôme.
2-1. 2-1 pour le reste.
C'est
Bart, Melvin Bart.
T'as dit Bart.
Bart.
C'est pas Bart Simpson.
Bart, c'est dans les Simpsons.
Ah, dommage.
Question du gars.
Faites comme moi. Soutenez la fondation Alzheimer.
J'oublie tout. Cette fois, tout le monde joue avec Christophe. Quel coéquipier champion du monde?
Candela.
Voilà.
Alors, oui,
machine de guerre.
Magnifique.
C'est une question pour moi, il n'a pas le droit de répondre. C'est une question du gars.
Aujourd'hui, tout le monde pouvait répondre.
Ça fait 2 partout. Bravo. On attend Pascal dans le quiz.
Allez, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir à Jérôme, la question s'invite.
C'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
On l'embrasse. Hein,
t'as oublié la règle, je crois.
C'est quoi la question?
Alors, en fait, c'est on cherche un joueur qui a, bah, un peu comme Steve, a fait que des clubs pas hyper florissants. Ça marchera toute la saison, j'essaie. Allez,
rire.
On commence.
Ouais.
Ça lui va tellement bien.
Il a commencé en U19 à Cannes. Ensuite, il est parti à Nice. Il a été donc formé à Nice. Il est parti ensuite à Cologne. Il est revenu au Paris FC en Ligue 1. Après, il est reparti à Cologne, après au National. Ensuite, il est parti en Belgique, à Virton.
Pozziello.
Pozziello.
Incroyable.
Pozziello, t'as pas honte.
Et petit message à notre producteur Nicolas Ledru.
Et alors, c'est comment son nom?
C'est Pozziello.
Faut Nico quand tu triches.
Je connais ni Pozziello. Moi, je connais ni Pozziello, ni Pozziello.
Vincent Cozziello.
Cozziello.
Si.
En tout cas, Pozziello, il n'existe pas, Pascal.
Non, qui est Pozziello? Qui a dit Pozziello? J'ai dit Cozziello.
C'est
Costello.
On finira comme les Grecs, sortez vos liquidités.
Non,
je rigole pas.
Il y a l'espoir.
Faites gaffe à votre épargne. Placez votre argent.
La question GG.
Ça fait peur, ça donne des frissons.
Ouais, t'as vu, hein.
Cette émission, elle est incroyable.
Elle est incroyable. Attention, la réponse n'est pas Alain Marchal. Rome n'est jumelée qu'à une seule ville dans le monde. Laquelle?
Ah bon? Pas mal.
Oui.
Quel pays?
Paris.
Et voilà.
Real de Madrid.
La ville du Real de Madrid, en plus. Ouais. Donc, ça fait 4-2 pour Jérôme et Guillaume.
Allez, bah, question Olmeta.
Si jamais on te démerde.
Eh ben, il met le gifle.
Eh ben, tu en mets un crochet du droit.
Tac, tac. Ou les deux touches.
Bon, alors dans cette question, il n'y a pas eu de violence entre joueurs physiques, mais il y a une violence, disons, morale. Quel joueur s'est fait voler sa montre par un coéquipier à l'OGC Nice?
Oui. Ah oui, je me souviens de cette histoire-là.
Attaquant.
Holberg.
Tolberg.
Oui,
Tolberg.
C'est bon,
ça
c'est
passe.
Bon.
Hein. Ouais. 4-3.
J'aurais voulu leur voler.
Nico articule quand tu triches, Nicolas, notre producteur. Ils n'entendent pas.
Voilà. Mais c'est qui, Nico? De quoi tu parles?
Ça fait 4-3 pour Jérôme.
Je ne sais même pas qui c'est.
Face au reste du monde.
Eh ben, je pense que ça va être l'heure de la routaine.
Ils cherchent des excuses.
C'est la routaine. La routaine, elle arrive.
La bonne réponse vaut 3 points.
Oh, bah c'est balle de match alors.
Balle de match. Oh, allez, j'hésite. Question costille. Allez,
oh oui, Greg, il la sort. Oh oui, m'a opposé Richard.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
Crucifié. Quel gardien, les amis, une question de gardien de but, évidemment. Tout le monde joue. Quel gardien de but était remplaçant de Letizy à Nice, puis au PSG dans sa carrière?
Ah, pas mal.
Alonso.
Et c'est cadeau, et c'est Jérôme qui remporte ce quiz. Il est en lice pour un grand chelem, Jérôme Rotten. Et il permet à Guillaume de remporter le magnifique cadeau.
Pour toi, Pascal.
Marque française de G-Design et connecté vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com. RMC, tous contre Rotten.
C'est déstabilisant, Manu Petit. Hein,
ouais, une pensée pour Thierry Ardisson aussi, puisque
on y est. Alors, vont s'affronter ce soir Antoine et Jean-Vincent. Salut à vous deux.
Salut
Jean-Vincent.
Salut. Il y a des enfants.
Salut Antoine.
Qui est là alors?
Je m'appelle Léona, je suis la fille de Jean-Vincent.
Ah, bah excellent, Léona.
Salut.
Tu veux jouer?
Salut, Léona.
Ah, Jean-Vincent, c'est le même. Ah, je crois que c'était Jean et Vincent.
Non, Jean-Vincent. Léona, tu veux jouer avec le gentil Jérôme Bretagne ou avec les méchants Tony Vérel et Manu Petit?
Jean-Vincent.
Avec les méchants.
Avec les méchants. Ok, bon voilà. Jean-Vincent avec le reste du monde et Antoine avec Jérôme. C'est parti.
Eh ben, on y va avec un thème avec des joueurs qui ont joué à Lille et à Lyon, puisque ce soir il y a Lille et Lyon.
C'est bien. Je crois que c'était Lille et Brandbergen, mais non.
Non. Ouais. Bah, au début, je voulais faire un spécial Brandbergen, puis au bout de zéro question, je me suis dit je vais pas y arriver. Allez, on commence avec une question flash. On sait tous que le stade de Lille s'appelle Pierre Mauroy, mais il a désormais également un naming. C'est quoi?
Matmut.
Non. Facile. Non. Réfléchissez. Une marque nordiste.
Ouais. Une marque du coin.
Oui, oh, Tony Vérel.
Décathlon Arena, Décathlon. Bonne réponse de Tony Vérel.
1-0 pour Léona et les méchants Tony Vérel et Manu Petit.
Allez, une question Manu Petit.
J'aime la bouffe, j'aime les voyages, j'aime le sexe. Je l'ai dit la semaine dernière, je préfère plus la bouffe en ce moment.
Ouais. Mais c'est encore plus dur de trouver des questions sur la bouffe finalement.
Donc on va rester. Ça peut être orgasmique aussi. Hein.
Quel joueur passé par les deux clubs a vu sa relation extra-conjugale révélée au grand jour après l'agression?
Jérôme Bretagne. Je vais arriver des problèmes.
Pardon. On va la refaire.
J'en ai déjà assez comme ça, Manu.
Quel joueur passé par les deux clubs a vu sa relation extra-conjugale révélée au grand jour après l'agression d'une coéquipière par une joueuse du PSG?
Amaroui.
Ah oui, non. Mais du coup le joueur. Ah,
mais le joueur concerné.
Abidal.
Un partout.
Ah, je fais une passe. Hein.
Ah, ouais. Un partout.
Comme on est avec une jeune supportrice, on va l'appeler la question bête ce soir, pour pas dire de gros mots. Le jeu de mots douteux. Quel joueur passé par les deux clubs peut-être une cigarette ou une balle de revolver? Médusé.
Un titi.
Facile.
Non.
Non.
Cigarette.
S'appelle Michel.
Ou une. Ouais.
Bastos.
Oui, bravo. Une Bastos.
Sinon, on en avait pour un quart d'heure.
Oui, ça t'a bien fait.
Michel Bastos.
Bah, une question pour le patron. Tiens, il est
enfin. Salut, c'est Jérôme Rotten.
RMC, la question pour le patron.
Quel attaquant est arrivé de Lyon au Paris Saint-Germain à
Non, mais.
Voilà.
Bon, ben non, 3-2 pour Jérôme et Antoine. Écoute. Manu, tu vois ça, tu dis rien.
Mais non, mais.
Tu vois l'association de malfaiteurs.
Mais non, mais pas du tout. Plus c'est gros, plus c'est.
Mais non, mais pas du tout.
Non, pas du tout. Je dis rien.
Que objection, votre honneur.
Tony, tu dis rien à toi non plus.
Mais je suis complètement intègre. En plus,
j'ai une anecdote sur Pierre. Il est tombé en vélo, il a fait un trou avec son nez.
Je savais que ça finirait comme ça.
Allez, on enchaîne. 3-2 pour le
gestion du gars.
Soutenez la fondation Alzheimer.
Petite question du gars, là on fait appel à la mémoire parce qu'on remonte en 2010. Toujours un club qui a joué dans les
non, deux. Un joueur.
Enfin, voilà. J'ai des longues journées. Hein. Moi je viens d'aller coucher Marshall. Donc si tu veux bien. Quel joueur passé par les deux clubs a mystifié le Real en 2010 d'un enroulé magnifique?
Quel
Il pourrait avoir un nom droit un peu, tu vois. Ou de pape.
Jean-Paul.
Ouais, enfin, non, mais.
Jean-Paul Sartre.
Macoun.
Jean de Macoun. T'es là, Tony Gaulle, bravo.
Bah, tiens, Tony, puisqu'on fait bosser la mémoire, on va faire une question pour Tony, là.
Oh, attention, Vérel. Et but. C'est une correction. But de Vérel sur cette ouverture magistrale de Vieira.
Oh, beau souvenir.
Ah ouais.
Tony, tu es le seul à pouvoir répondre.
Ah bon?
Eh oui. Toute compétition confondue, combien de buts as-tu marqué avec l'OL? Petit indice, c'est entre 15 et 25.
Bon, mais ça va. Tu vas pas le. Il l'a pas.
Blackjack?
Ah.
Il faut dire le.
Bah oui, il faut dire le.
Bah 21, t'as perdu, mon pauvre. T'as mis 21 buts, hein, c'est beau quand même.
Pas mal, 21 buts. On en reste à 3 partout, il reste une.
Je suis bien désolé pour.
Allez, question d'Imeco.
Pas répondu.
Ah ouais.
Allez, d'Imeco.
Tony.
21.
Bravo messieurs, vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
On cherche un international français passé par les deux clubs. Il a commencé à Caen, il est parti à Lille, Bodmer. Puis à Lille. Oh la vache.
Qui? Oh là là, Bodmer. Bodmer. 4 à 3 pour Jérôme et Antoine.
C'est magnifique, beau ça. Ça. Hey, Manu, t'as vu comment ça dégaine? Bam.
Alors, la question Larquet, on y va.
36-15, code de Kinover pour les jeunes Kinover.
C'est Minitel pour question Larquet.
Ouais. Là, on va chercher un joueur qui a joué entre 80 et 2000. Le principe. Quel joueur champion d'Europe a vu ses deux fils jouer en Ligue 1?
Jean-François Domergue, non?
Non. Champion d'Europe avec l'OM.
Amédi Pelé.
Oui.
Oh, ça fait 4 partout et c'est peut-être l'heure de la routine.
C'est complètement l'heure.
Benoît répond pour tout le monde, sauf pour Jérôme.
Aïe,
aïe, aïe.
Là, je peux pas répondre.
C'est-à-dire que si j'ai bon, je casse le grand chelem de Jérôme Bretagne.
Ah, voilà. Bah c'est dommage.
Aïe.
Non. Alors.
Sous couvert d'huissier, bien évidemment.
Tu es prêt, Benoît?
Je suis prêt.
Ça sera une question con numéro 2. Enfin, bête, on avait dit aujourd'hui. Quel joueur passé par les deux clubs?
Tout le monde peut répondre. Excuse-moi, tout le monde peut répondre là?
Non, que moi. Benoît. D'accord. Benoît, il peut, détruire ta soirée.
Ça marche. Non.
Quel joueur passé par les deux clubs accueille des lapins pour dormir tous les soirs?
Oh, c'est facile. Oh, je l'ai. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, mais elle est facile, celle-là.
Il a joué à Rennes aussi.
Non, mais c'est bon, quoi.
Ah, bah oui.
Ah, c'est trop
désolé,
facile.
Jérôme. Martin Terrier.
Bonne réponse.
Et bam.
Ah, c'est...
Voilà, y a
c'est
des...
honteux.
On va partir vite là.
Et voilà, et la victoire donc de Jean-Vincent et Léona. Je suis ravi pour elle. C'est elle qui gagne ce magnifique quiz. Et ça brise le grand chelem de Jérôme Roten.
Ah, bah, c'est dommage.
Bravo Jean-Vincent, c'est toi qui apparaît avec le magnifique. Bah,
je le vois également.
Mais on s'en fout.
Que Free16 Objet Design est connecté, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com. RMC. Tous contre Roten.
Salut Louis.
Salut Louis.
Salut l'équipe, salut tout le monde.
Salut.
Et puis bonjour à Jean-Michel.
On dit salut à Antoine et Grégory qui vont s'affronter pour l'enceinte Mino X de Lexon. Salut à vous deux.
Salut les gars.
Bonsoir, salut.
Bonsoir. Salut tout le monde.
Alors
salut Antoine, supporter des Girondins de Bordeaux, tu veux jouer avec Benoît Costil?
C'est pas sûr.
Pas forcément.
Il veut jouer avec Jérôme. Ah, c'est pas un bon souvenir, alors, peut-être. Et Grégory avec le reste du monde. C'est parti, Louis, vas-y.
Alors, on va y aller ce soir avec un.
Ah, bonsoir, Louis, ça va?
Oui, ça va, Jean-Michel?
Oui, ça va. Oui,
ah, tiens, juste avant de commencer, Benoît, rapidement, j'ai une question. Si je te dis un joueur pétri de talent qu'on appelait le petit Roten, tu l'as?
Mais bien évidemment, Javier Pastore.
Bah voilà, tout le monde le sait. Bon,
voilà, merci.
J'ai suivi les émissions, j'ai suivi les podcasts.
Vous n'avez pas honte quand même. Non, merci.
Non, mais sérieux, Javier, faire ça, toi.
Javier, après, je l'ai laissé.
Tu compares Pastore et Roten.
Apparemment, il a une petite figurine Jérôme Roten au-dessus de ça.
C'est comme si tu comparais à la cuisine Gagnère et McDo. C'est pareil.
J'en ai fait qu'un des deux.
Tu te rends compte ce que tu racontes?
On va faire un test.
Pastore, il a fait une finale de Ligue des Champions.
Allez, faut y aller.
On va faire Strasbourg. Pour Marseille ce soir, on va parler de joueurs passés par Strasbourg, passés par Marseille ou passés par les deux clubs.
Ok.
On commence avec une question flash. Quel défenseur passé par les
Bay.
Deux non passé par les deux clubs a terminé sa carrière dans un des plus beaux clubs du monde, la Berrichonne de Châteauroux?
Bertin.
Oh,
Bertin.
Magnifique.
Oh, t'es dit Bertin.
Non, je suis devant. Hein. Non. T'as un petit décalage. T'es juste derrière, Benoît. Ouais.
1-0 pour Jérôme.
Ah, scandaleux.
T'as plongé trop tard.
Comme souvent, t'es un peu en retard.
Une petite question con alors.
Allez.
Quel joueur de Strasbourg était plus populaire en 1918 qu'en
1945?
On ne va
pas dire. Un joueur.
Adolf Hitler.
Il est con. Le maréchal.
Bonne réponse.
Putain, mais moi, je ne connais pas qui c'est le maréchal. Pétain, mais je connais pas, moi, que Pétain.
Ah, Pétain, oui. Ouais.
Non, je le croyais. 2-1. Hein, vous n'avez pas compris ma plaisanterie. Bon, vous ne suivez pas la politique. Voilà,
bon, vaut mieux pas.
Allez, question tu rendis compte.
Bon, d'accord, mais
tu rendis compte si tu poses la question à un supporter italien qui est dans Calcoane. Qui est cette pouforte?
Dans Calcoane. À l'OM, le staff est italien, enfin, principalement italien, mais il n'y a qu'un seul joueur transalpin actuellement. Qui est-il?
Un joueur ou un...
Un joueur. Il y a un joueur italien.
Il y a un joueur italien dans l'effectif de l'OM. Ouais. Mais c'est lequel?
Ah, je l'ai.
Emerson Palmieri.
Magnifique.
Et il n'a pas dit l'action?
Ah oui, t'as pas dit l'action.
Tout est rendu compte, ah ouais. Emerson Palmieri. Seul joueur. Félicitations, congratulations.
Eh ben, une question larquée, alors.
26-15, code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent.
Gerbier, t'es un truand.
Ah, c'est bon, ça. Ah, il y a une petite mise à jour.
Magnifique.
Question larquée, quel champion du monde passé par Chelsea est une légende de Strasbourg?
Quand même.
Le bœuf.
Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas, là?
Il y a de la brosse ce soir.
On l'embrasse, on l'embrasse tranquille.
Il y a du niveau.
Question Savidan.
Pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
C'est quoi déjà? C'est quoi?
Ah oui, alors je vais te dire, en fait, c'est quand je vais citer tous les clubs d'un joueur, pour trouver sa carrière, parce que bon, le point commun avec Steve, c'est qu'il a fait que des clubs pas hyper florichons.
Ah d'accord. Ah comme Steve,
ouais, c'est ça.
Angoulême,
ça toujours
Angers,
jusqu'au bout.
Angers, ça va encore.
Allez, c'est son heure de gloire, Angers.
On y va, il a joué. S'il est dans le quiz de ce soir, c'est qu'il est passé par Strasbourg. Il a commencé à Belfort, puis Mulhouse, ensuite Strasbourg,
Domenech,
Bastia, revenu à Strasbourg.
Ben oui, Domenech, il a joué à Strasbourg, à Mulhouse, oui.
Et il a fini à Sochaux. C'est plus contemporain que ça. Il a quitté Strasbourg en 2023. Milieu de terrain, qui est resté beaucoup de temps à Strasbourg.
Liénard, Dimitri Liénard.
Voilà, bravo Benoît, ça fait 3 partout.
Ah, Liénard,
c'est plus de ma génération.
Bravo Ben.
C'est Bastia qui m'a tué, c'est vrai qu'il est parti à Bastia.
Et le dernier, je devrais jouer pour vous.
La Routaine, 4 points pour Jérôme.
La bonne réponse vaut 3 points.
C'est une balle de match entre Jérôme et le reste du monde.
Eh ben écoutez, on va finir la semaine avec une question con numéro 2.
Oh non.
Ah si. Ah, je t'assure que si. Quel joueur de Strasbourg est toujours en train d'interpeller ses copains?
De Strasbourg.
Réfléchissez.
Doué.
Barco. Et les gars?
Oui.
Et les gars.
La victoire de Captain Larquet, de Benoît Costil et surtout de Grégory. Qui remporte le magnifique cadeau.
Quelle belle semaine, Jérôme.
Vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
On l'avait pas dit pour pas de guigner, mais t'étais en route pour un grand chelem en plus. Crac, c'est raté.
C'est vrai.
Incroyable. Non, il a perdu hier. Tu lui as fait perdre hier.
Ah ben c'est vrai, vous avez perdu.
Il s'est même plus.
Ah ben il y a pas de regret.
Non mais
merci Louis Gerbier.
Merci
Captain Larquet.
Merci Benoît
Costil. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous demain pour la suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme, de grandes émissions à l'honneur des grands débats, notamment ce débat autour de Kylian Mbappé. Deviendra-t-il un grand numéro 9? À demain, bonne soirée à tous. Ciao.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme. Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.